Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cette émission est parrainée par Radioline, l'appli aux 60 000 radios et podcasts disponibles sur les stores et depuis le site radioline.co.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, s'il devait faire la liste des moments où dans sa vie il fut emporté par un tourbillon violent de peur, panique et d'érotisme trouble, classerait certainement la conclusion du premier Alien et cette course-poursuite entre le xénomorphe et une Sigourney Weaver légèrement vêtue dans le top 3. C'est vous dire si la saga, le mythe Alien, tient une place à part dans nos petits cœurs de cinéphiles et vu la tournure des choses prises avec Prometheus déjà en son temps, c'est avec un peu d'effroi justifié, vous verrez, que nous attendions Alien Covenant, la suite du préquel d'Alien signé par le terrible Ridley Scott dont on va un peu parler avant d'aborder plus largement Alien dans les grandes largeurs, avec les 5 voyageurs stellaires de la critique réunis ici à l'antenne Paris. Rafik Djoumi, salut Rafik.
Salut Thomas.
David Honora, salut David.
Salut Thomas.
Yannick Daor, bonjour Yannick.
Salut.
Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et Julien Dupuis, salut Julien.
Bonjour.
C'est Nos Ciné. Julien qui est dans une autre pièce.
Ouais.
C'est Nos Ciné.
Ah, le gars 84. Le gars.
Et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Ça commence bien cette émission. Je ne ferai l'insulte à personne de résumer la saga Alien. Si vous ne connaissez pas, éteignez immédiatement cette émission. Allez chez votre vendeur de produits culturels le plus proche. Achetez les deux premiers au moins et revenez nous voir après. Pour les autres, entamons si vous le voulez bien en crevant l'abcès. Le mot est juste, je crois, qu'est Alien Covenant, nouvelle itération donc de la saga. 5 ans après le pénible Prometheus, Ridley Scott ne lâche rien. Remet le couvert pour nous emmener sur les traces de l'avant Alien avec un nouveau vaisseau affrété par la tentaculaire Weyland-Yutani Corporation. Le Covenant avec le même androïde que dans Prometheus, toujours incarné par Michael Fassbender, sauf que là il s'appelle Walter et non plus David, mais rassurez-vous, on va revoir David puisque la planète sur laquelle accoste le Covenant réserve bien des surprises qui entre autres bavent et ont une légère propension à vous bouffer la gueule à la moindre occasion.
We don't know what the fuck's out there.
Les bruits de Yannick Daor qui mange des chips par-dessus, c'est superbe. Quelle mise en onde absolue.
J'entends rien, je suis désolé.
T'as pas mis ton casque, c'est pour ça. Au casting, outre Fassbender, on trouve Catherine Waterston, qu'on avait vu entre autres chez Paul Thomas Anderson ou chez Danny Boyle, mais aussi Billy Crudup, ou même Danny McBride, oui madame. Alors rapidement, avant de passer aux choses sérieuses, un mot sur ce Covenant, messieurs. Julien, tiens, tu es en face de moi, ça tombe sur toi.
Ah, il faut que je rentre dans votre pièce déjà.
Il faut que tu reviennes de la pièce dont tu étais.
Est-ce que je suis là? Ah oui, voilà, là, ça y est, voilà, je suis arrivé. Ça,
voilà.
C'est une petite formule. C'est à Prometheus que Prometheus était Alien. Voilà.
Il devrait mettre ça sur les affiches.
Oui, non,
chacun il va aller de sa formule. Moi, pour moi, la mienne, c'est souviens-toi, l'été dernier, rencontre la dernière compagnie au clair de lune.
Ah ouais.
Ouais, un peu. La septième compagnie, pardon.
Oui, j'avais compris. J'avais saisi la référence. Stéphane.
Non, moi, j'ai pas de formule. Hein.
T'as pas de formule.
Non, bah, non, mais attends, tu veux vraiment qu'on dise deux mots sur le.
Non, je plaisante. Quand je dis quelques mots, on peut développer
non, ouais,
un petit peu.
C'est on va probablement parler des autres aliens après. Donc du coup.
On va parler des autres aliens. Après, je te le confirme.
Non, mais ce que je veux dire, ce qui est étonnant, c'est que pour la première fois, j'ai l'impression dans la saga et déjà à l'époque de Prometheus, c'est des films qui sont vraiment voulus par les studios, en fait, qui sont faits avec des largesses énormes et un vrai budget monstrueux, pas de crise sur le plateau, pas de crise avec les exécutifs, et c'est les pires films que Ridley Scott pouvait faire. Quoi. J'ai un sale retour là.
On a une espèce de petit Larsen qui traîne, et je pense qu'on va arrêter ça très vite.
Et du coup, voilà, c'est surtout un film, j'ai l'impression, avec des personnages vraiment stupides, mais tous plus stupides les uns que les autres.
La septième compagnie, clairement.
Ouais, hein. Voilà, et du coup, c'est très, comment dire, Enfin, c'est fatigant en fait de regarder des gens faire. Enfin, c'est même pire que dans un slasher de base où tu te dis bon bah c'est
des... Ou de temps en temps dans un slasher de base ils ont des éclairs d'intelligence oui. quoi. Là tu les attends, mais de toute façon ces personnages là on sait même pas comment ils s'appellent, on s'intéresse pas du tout à eux. Ils sont complètement interchangeables à l'écran. Il y a qu'un seul personnage qui intéresse a priori un tout petit peu Ridley Scott et ses scénaristes, et c'est l'androïde. Donc les humains d'emblée ils sont là, c'est de la chair à canon.
Voilà,
qui vont faire les pires conneries du monde. Hein. Ils sont contaminés par un agent étrangers sur une planète étrangère dont ils n'ont jamais entendu parler, leur premier réflexe c'est d'ouvrir toutes les fenêtres du vaisseau pour s'assurer que tout le monde puisse rentrer. Vraiment, enfin, ça commence comme ça et ça ne fait qu'empirer au fur et à mesure.
Et si on devait recaler ça par rapport au reste d'Alien, c'est-à-dire que la problématique de Prometheus, c'était de prendre tout ce qui pouvait être mystérieux dans le premier Alien et en fait de donner une explication, même si on n'en a pas besoin, même si on n'en veut pas, même oui. si ça fait 35 ans qu'on
rationalise
et que tout allait
le
bien,
mythe.
Voilà. Bah, en fait, il leur restait quelques-unes, une ou deux, à donner un ou deux éléments de mystère. Baf, il te les balance, tu vois. Donc voilà. Donc moi, je pense que c'est effectivement, comme dit Julien, c'est pire que comment dire, Prometheus. Après, c'est aussi un autre truc que Ridley Scott n'avait pas fait jusque-là. Enfin, j'ai l'impression. Parce qu'on dit quand même Ridley Scott, ce grand visionnaire, ce grand cinéaste de génie.
Continue à le dire. Ouais, voilà, c'est fou.
Ouais, c'est fou. Et en fait, c'est quand même. Il est quand même. Tombé dans le cinéma de doudou, quoi. Il est quand même tombé dans la citation nostalgique. Il reprend des thèmes de Jerry Goldsmith qui sont, je crois, qui reviennent pour la première fois en 38
ouais,
ans.
C'est
quoi.
Super embarrassant.
Voilà. Ouais. L'Alien, évidemment, qui avec des plans similaires. Moi, il y a ce moment que j'aime beaucoup, qui est quand même le parce que Ridley Scott, qui non seulement est un cinéaste visionnaire, mais tape aussi sur ses petits camarades,
sure.
avait détesté Aliens à l'époque. Mais il se permet littéralement de le citer dans une scène mais, d'action oui. à la fin sans sourciller. Quoi.
Mais quand il y a de la gêne, il n'y a pas de
Et tant qu'à citer James Cameron, autant refaire aussi une séquence entière d'Avatar.
Voilà, hein, ça,
avec une baston sur l'aile du vaisseau, qui ne sert strictement à rien, évidemment, et qui est en plus mal foutu. Mais moi, c'est surtout le ce qui semble être l'incompréhension totale de ce que c'est qu'Alien. Enfin, tu es là, tu dis, mais c'est un peu le même topo qu'on avait eu avec George Lucas à une époque. Mais,
oui, c'est exactement ça. Ça fait penser au préquel.
Ouais. Tu les as vus, tes propres film, on est tellement loin. Comment dire, le premier film, moi je suis suffisamment vieux pour avoir vécu la sortie, avoir vu les adultes réagir à ce truc-là, c'était un film qui avait mis tout le monde mal à l'aise. Les gens étaient fascinés, mais vraiment, vraiment mal à l'aise. Alors évidemment, les gosses, nous, ça nous est fantasmé, ce machin-là qui mettait nos parents dans des états pareils. C'est un film angoissant, le premier Alien qui prend aux tripes, en tout cas au moins à son époque. Quoi. Là, on a effectivement un truc de l'ordre du slasher avec carrément des gags slapstick involontaires, une nana qui lors d'une attaque se précipite pour aller chercher un fusil et qui revient, qui se rétame la gueule sur une flaque de sang avec le bruit avec le bruit du slapstick, avec le switch, pronging. Et là tu fais mais non, c'est pas possible. Enfin, c'est Yaphet Kotto, il avait pas des patins roulettes sur lesquels il roulait en disant ouh là 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 là, un alien derrière moi. Enfin, on est vraiment tombé à ce niveau-là. Et quand je cite Souviens-toi l'été dernier, j'ai l'impression que parfois c'est carrément des références.
Il y a une scène sous la douche, par exemple, exactement. T'as l'impression d'être dans un vieux Vendredi 13.
Exactement, ouais. Avec la queue de l'alien qui sort, le truc au ralenti, avec de la musique à fond, les jeunes qui font l'amour au ralenti sous l'eau et la queue de l'alien qui apparaît sur le côté. Mais aussi la meuf un peu avant qui prend son espèce de bain au bahut, et il y a cette espèce d'alien albinos, là. Moi je l'appelle le Wawa parce qu'en gros c'est le chien de David dans le film. Il a un chien alien, voilà, qui tombe dans les herbes. Donc il y a une espèce de caméra subjective de la créature. Déjà ça, il faut quand même insister.
C'est
une caméra
chaud,
subjective
hein.
d'un alien.
Ça,
quoi.
C'est difficile. Déjà,
il manque les bruitages. Moi j'aurais ouais. bien aimé quand il voit la meuf à poil qu'on l'entende un peu. Qu'il fasse... ah, bon. Bref, mais toute cette partie-là, c'est vraiment Souviens-toi l'été dernier. Alors il aura beau jeu après de te faire une référence bien pédante à Fuseli et le cauchemar lorsqu'on trouve le cadavre de la meuf avec l'alien ainsi de suite. T'as envie de dire non.
Et ça.
Mais,
ouais. Ça, c'est un truc super embarrassant. C'est-à-dire que tu te souviens de Alien, on en reparlera tout à l'heure, mais c'était un concept de série B qu'il avait réussi à ériger bien au-delà de son scénario de base. Hein. Mais, et là, en fait, sur Prometheus, c'était déjà le cas, hein, d'ailleurs, il s'empare de thématiques comme ça, presque métaphysiques, en fait. Hein. C'est le rapport à Dieu, à ton créateur, au divin. Alors, évidemment, il revient avec l'intelligence artificielle, etc. pour te rabaisser ça, il est à un niveau d'un sous-alien italien des années 80. On est à peu près là-dedans. Et je serais même tenté de dire dans celui-là, et ça, c'était pas, moi, je trouve que ce n'était pas trop le cas dans Prometheus, y compris d'ailleurs visuellement. C'est-à-dire que ça, je trouve que la direction artistique du film est absolument catastrophique. Il n'y a rien à sauver. Il n'y a pas un décor. Il y avait les ingénieurs, au moins dans Prometheus, qui pouvaient commencer à créer un vague quelque chose. Là, il les traîne dans la boue, ces personnages-là.
Déjà, le décor, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est pauvre, la planète, c'est une forêt. Donc, tout.
Oui, tourne en Nouvelle-Zélande.
Voilà, le fait de refaire, parce qu'en gros, il refait quand même le premier. En gros, c'est le début, c'est la même. Ils reçoivent un signal d'une planète, ils vont sur la planète en question, et c'est là où ils vont être, où l'un d'entre eux va se faire féconder par une bestiole. Sauf que les 20 minutes que tu passais dans le premier à explorer cette planète alien, c'était une putain de planète alien. Ouais. C'était les cauchemars de Giger en live dans ta gueule. Et là, c'est des gens qui marchent dans une forêt, quoi. Donc, c'est les randonneurs pendant un quart d'heure.
Où il n'y a pas d'animaux.
Où il n'y a pas d'animaux.
L'aspect
voilà.
étrange.
Était censé faire monter une tension là-dedans, non, c'est impossible jusqu'à l'arrivée de Luke Skywalker là, enfin où il y a une espèce de chevalier Jedi qui apparaît en pleine nuit pour les sauver d'une attaque d'aliens albinos, enfin c'est aberrant quoi.
D'aliens qui fait du kung-fu, oui. C'est quand même un très beau plan là où il se met à les latter avec ah non c'est... mais le truc aussi avec ce film c'est pardon, tu...
ouais, je voulais passer la parole à David qui n'a pas pu parler depuis tout à l'heure. David, vous écoutez avec beaucoup d'attention,
en étant complètement d'accord avec tout ce qui s'est dit, notamment sur le fait que. Alors moi, je précise avant, et on va en reparler un petit peu ensuite, que pour le coup, je ne suis pas si fan déjà moi-même de la saga originale. Et en même temps, je mesure la différence énorme qu'il y a entre ce qui était notamment le premier film de Ridley Scott et ce qu'on a maintenant depuis Prometheus. C'est notamment l'abandon de tout ce qui faisait l'angoisse en fait du début de la saga et notamment ici dans les scènes de la partie slasher, parce qu'en fait il y a quelque chose qu'on n'a pas trop précisé, c'est qu'au-delà de ça, même avant d'arriver dans ce qui est vraiment la partie slasher et angoisse du film, il y a quand même une très longue première partie du film d'exploration qui ne mène absolument à rien. Qui en plus, contrairement au film original, repose sur une équipe qui sont censés avoir quand même plus de responsabilités. C'est pas des gens lambda dans un petit vaisseau dans l'espace.
Là, c'est ce qui les rend justement encore plus stupides.
Voilà, c'est le décalage entre la responsabilité qu'ils sont censés avoir de recoloniser et de transporter toute une population avec eux et qu'ils soient mais tous plus incompétents les uns que les autres. Et en plus de faire jouer parfois leur stupidité sur des relations affectives, genre ah c'est ma femme, je peux plus penser à rien, il faut que j'y aille. Et en fait, on lui apprend qu'il est mort et la scène d'après, il est en train de danser avec sa copine. Enfin, il y a un truc qui est aberrant dans la description des personnages et dans leur manière d'interagir. Il y a un autre problème, à mon sens, c'est dans l'utilisation des créatures qui sont alors, j'ai du mal à comprendre quelle a été la psychologie qui a amené à ça, mais effectivement, d'une part, on veut trop en montrer, c'est-à-dire que vraiment, on voit les aliens. Alors, il y a la version blanche qui est
le wawa
qu'on voit beaucoup trop. En fait, qu'on voit beaucoup trop pour qu'elle fasse peur. En plus, c'est une petite bestiole très rapide, mais qui est trop intégré au plan. Le fait de montrer à la première personne ce que voit l'alien n'a aucun sens, et en plus rompt complètement le découpage de la scène qui à la base est totalement pompé sur le premier épisode, et on a du coup des séquences qui ne fonctionnent pas parce qu'on a l'impression que personne n'adhère à la situation et qu'on est en fait en roue libre dans le fait de rejouer le souvenir de quelque chose qui a existé dans la première.
En essayant de le raccorder avec Prometheus. Hein,
c'est un film qui est entre deux chaises.
Il y a quand même quelque chose. Moi, je vois effectivement, ça me fait penser aussi finalement au niveau de nanar ou de slasher qu'on pouvait voir dans les Aliens versus Predator avec vraiment des personnages fantoches qui vont permettre de mettre en scène les créatures et tout ce qu'elles évoquent. Et par-dessus, il y a ce que je trouve encore plus gênant, une forme de vernis à la fois philosophique et esthétique qui Je trouve sonne creux.
C'est pas un vernis, en fait. Ah non, c'est des grumeaux. Oui. C'est-à-dire que c'est des post-it. À un moment, tout à coup, ils citent Byron, tout ça. C'est, ouais. C'est gros, c'est Byron, énorme, mais c'est pas du tout Byron, intégré au reste.
D'ailleurs, totalement incohérent aussi pour, par rapport à...
Yannick voulait faire une petite intervention.
Je fais une parenthèse, parce que moi, Emmanuel Macron, j'ai pas vu le film, mais je suis d'accord avec tout le monde. Juste par rapport à tout ça, moi, c'est ce que je dis depuis des années sur Ridley Scott et qui me sort par le trou de balle, c'est vraiment... le vernis que tu dis, effectivement pseudo-philosophique, comme l'ampleur des budgets qu'il a, qui font une illusion du spectaculaire, mais qui n'est qu'une illusion, elle n'est pas simplement la traduction d'un égo mal passé qui deviendrait le fossoyeur de sa propre œuvre, comme on a pu le dire pour George Lucas. Dans le cas de Ridley Scott, c'est pire. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a un problème... d'amour, répulsion par rapport à ce qu'il a créé, ce qui, à mon avis, est le cas de Lucas. On est vraiment chez un sénile dont la vieillesse a fait qu'il se prend littéralement pour Dieu. C'est typiquement... Il me fait penser à ce réal, à Alan Parker, tu te rappelles, dans les années 80, qui criait à tout le monde « Je suis le meilleur réalisateur du monde, les autres, c'est tous des connards ». Aujourd'hui, lui, il a pas besoin de le dire. Mais quand tu regardes ce qu'il fait, c'est pas simplement « Je prends Alien et je nique Alien », je suis sûr qu'il est complètement raté, celui-là. C'est « Regarde les films qu'il fait avant, regarde les mythes qu'il fait, regarde les genres qu'il aborde. Que ce soit Robin des Bois, que ce soit Gladiator, j'ai pas besoin de dire à quoi ça fait référence. Que ce soit Exodus, j'ai pas besoin de dire à quoi ça fait référence. Le mec, il est systématiquement en train de prendre des mythes du cinéma, à défaut d'être des films référentiels, c'est des genres ou des figures mythologiques qui ont été reproduites de film en film et sur lesquelles il arrive pour dire « Attendez, je vais vous montrer comment on fait ». Et qu'est-ce qu'il fait, le bastardo ? Il rationalise ses mythes. C'est ça le pire, c'est ce qu'il fait. Non, dans Exodus, il fait la même chose. Il prend les 10 plaies d'Égypte et il t'explique scientifiquement pourquoi il y a les 10 plaies d'Égypte. Il y a quelque chose de fou chez ce type.
Je parle trop fort. Tu cries.
J'ai pas le casque, alors j'entends pas.
Mais même ça, c'est pas assumé. C'est-à-dire qu'effectivement, il rationalise l'alien, ce qui est une erreur.
Non, mais c'est pas assumé, mais c'est ce qu'il fait depuis des années.
Sauf qu'il joue quand même sur le mystère et l'incompréhension qu'on a de cette créature. Enfin, c'est tout fait de traviole, quoi.
Et surtout, ces références multiples, parce qu'effectivement, elles pleuvent, elles n'arrêtent pas. J'ai cité Fuseli tout à l'heure, mais au niveau de la peinture, il y en a comme ça des tonnes. Surtout qu'elles n'ont aucun sens par rapport à ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que tout le travail esthétique du premier film, qui était bourré de références à des objets classiques, n'apparaissait pas comme des références, parce que ça infusait organiquement dans ce que le film était en train de raconter. Bravo, Yann.
Voilà. Qui est con.
Il l'a dit, ça lui sort par le trou de balle.
C'est terrible, Scott.
C'est un alien blanc, si vous vous demandez.
Termine, Rafik, s'il te plaît.
Et là, donc, je sais pas si la responsabilité doit être portée sur ces scénaristes, mais ils y vont carrément à la tempête de Shakespeare. Hein. Donc, grosso merdo, c'est le personnage de David dans le film, c'est Prospero qui est sur son île et qui fait ses créatures. J'ai envie de dire, si vous voulez voir une adaptation de La Tempête de Shakespeare version SF qui fasse plus moderne et moins kitsch que ce Alien, allez voir Planète Interdite, voilà, qui a conservé un tout petit peu de sérieux par rapport à ce qu'il raconte, ou l'île du Docteur Moreau éventuellement, y compris le remake, le remake de la fin des années 90. Non mais c'est super embarrassant. Et alors en termes de réalisation aussi, oui. il y a cette idée d'essayer tout et n'importe quoi à des moments complètement inopportuns. Donc on parlait de la caméra subjective, la mort d'un personnage vu par des caméras de surveillance.
Il y a des plans à la GoPro dans les couloirs.
Ou la GoPro dans les couloirs. Mais à chaque fois de demander pourquoi. C'est même pas que c'est mal fait. Qu'est-ce que ça fout là, quoi.
En plus, il récupère des scènes il récupère des plans de son frère, en fait. Il y a notamment, le gunfight. Enfin, c'est pas un gunfight en l'occurrence dans Alien Covenant, mais dans le gunfight à la fin de True Romance, en fait, où les mecs tirent dans les coussins avec les plumes en suspension. Mmh. En fait, il refait ce truc-là avec le truc terraformé à la fin, où en fait, ça brouille les premiers plans, l'avant-plan, en fait, pour les spectateurs. Donc voilà, mais comme il l'avait déjà fait d'ailleurs dans son film de Mensonge d'État, Secret d'État, je ne sais plus comment ça s'appelait, où il reprenait carrément les vues satellites de Tony Scott.
Il y a une scène dont on n'a pas parlé, mais qui à un moment donné dans le film, je me suis dit qu'il y avait potentiel de développer quelque chose, c'est justement la relation entre les deux androïdes, donc Walter et David. Et il y a une scène qui, enfin, pour moi, qui n'a rien à voir avec le reste du film, mais qui en soi est intéressante, où ils se rencontrent tous les deux. Et David apprend à Walter à jouer de la flûte, ce qui est une scène un peu homo-érotique, soulignée par les dialogues avec des trucs genre je m'occupe des
c'est
doigts.
Tellement grossier, c'est énorme. Sauf que
cette scène, alors, je suis d'accord avec
c'est assez scène. Drôle quoi.
Il y a un côté un petit peu drôle qui sort un peu du sérieux très sinistre du film je sais pas, mais esthétiquement il y a un truc, enfin il y aurait eu des choses hyper intéressantes à faire avec ce double Fassbender.
C'est très clairement le seul truc qui l'intéresse, hein, je pense.
Ouais. Mais ça, c'est un problème, je trouve, par rapport à Alien à proprement parler. C'est-à-dire qu'en gros, on part du principe que l'androïde, qui est un truc qui a été, comment dire...
L'Alien, c'est l'étranger. Dans la saga Alien, il est censé être l'expression d'autre chose. Et t'es censé, en tant que spectateur, te raccorder au personnage principal, au principal. La misanthropie de Ridley Scott, qui est de plus en plus apparente au fil de sa carrière, fait que là, aujourd'hui, il se cache même plus. Les humains ne m'intéressent pas.
La misanthropie, en soi, c'est une chose, mais là, je raccorde ça vraiment à la saga Alien, c'est-à-dire que t'as l'androïde qui était joué par Ian Holm dans le premier, c'était un ennemi, mais un ennemi par dessein en fait. C'est-à-dire que là, en fait, là, ça devient et dans la suite, Bishop, c'est devenu un allié. En fait, il y a beaucoup de retournements avec l'androïde. Il y a une façon de l'utiliser. Et là, en fait, il en fait carrément le truc principal, l'idée même, en fait, effectivement, tu parlais de sa misanthropie, mais l'idée même, en fait, qu'il faut que ça fasse partie intégrante de d'Alien et qu'on l'utilise, en fait, à dessein. Et ça, c'est un problème, en fait. C'est-à-dire on change de film, en fait.
L'Alien est une expression du divin.
Et après, on arrête sur Covenant.
L'Alien est une expression du divin, et si tu places par-dessus une création humaine, enfin, c'est ridicule, tu tues ton monstre, quoi. Moi, je voulais juste dire peut-être un mot, parce que ça peut peut-être permettre en plus d'enchaîner un peu plus facilement sur la saga, sur le côté artisan de Ridley Scott. C'est-à-dire que on est quand même, quand on met en regard à la fois Alien, le huitième passager, et celui-ci, on est, et ça c'est des faits très, très objectifs je pense, on est face à un mec qui luttait contre le studio pour avoir plus de temps, à qui le studio a coupé le courant à la fin parce qu'il est revenu retourner tous les plans de maquette qui ne lui convenaient pas parce que c'était Brian Johnson qui les tournait et que le mec venait de 2001, enfin surtout de Cosmos 1999 qui était une école très particulière de filmer les plans de maquette, très clean, etc. Et lui, il ne voulait pas ça, donc il a tout retourné. Il s'est battu avec le studio pour faire ça. Il était de notoriété publique que le mec il prenait un temps fabuleux pour faire ses plans, y compris sur Legion, jusqu'à Legion en tout cas. Et là, on est face à un mec qui est un shooter, mais un vrai cochon. Et il s'en vante. C'est-à-dire qu'il y a des déclarations d'Empire où le mec, il te dit « Ah non, moi, je prends la première ou la deuxième prise. Je sais ce qu'il me faut maintenant et je m'en fous et je shoot à 4 ou 5 caméras. » Et ça se sent dans le film. Oui. C'est-à-dire que même en-delà de tout ce qu'on a dit qui est un peu de l'analyse, etc., c'est un film de cochon au niveau de l'artisanat.
Il le dit lui-même. Dans le coffret Alien qui était sorti en DVD au tout début des années 2000, le commentaire audio de Ridley Scott sur le premier film, il était clair là-dessus. Il n'arrêtait pas de répéter « Si je faisais Alien aujourd'hui, je ne le ferais certainement pas comme ça. » Et il se regardait avec dédain en se disant...
Ce n'est pas possible, même en termes de studio.
La limite, c'était « C'est qui ce petit con ? Pour qui se prend-il ? » Effectivement, il avait le souvenir,
Il n'était pas possesseur du premier film, entre guillemets, parce que je vous entends parler « L'Alien, c'est l'étranger, l'Alien, c'est Dieu », tout ça, c'est vrai. Sur un sens mythologique, on y voit, mais il ne faut pas oublier que... Moi, c'est ça qui me choque le plus. Enfin, qui me choque le plus. Non, vu le système des studios, ça ne me choque pas. Mais les trois premiers Aliens, Alien, c'est quand même une bite. C'était quand même pensé comme ça par Geiger. C'est quand même l'incarnation de l'objet phallique dans lequel une meuf en culotte va se fighter. J'aime pas le psychologisme de bazar.
Ils sont
allés le chercher pour ça. Donc, je veux dire, il y a cet élément-là de départ.
Il y avait un travail, mais ça, on va revenir.
On va revenir dessus.
Mais un travail psychanalytique
évident. Sur le premier, qu'ont parfaitement compris et Cameron et Fincher derrière. Alors, je vais essayer de parler plus doucement, apparemment j'arrache les... Cameron passe de la nana victime, il te fait quand même l'ennemi cette fois, c'est quand même la société matriarcale, c'est la mama d'Afrique du Nord, si tu veux, la biatch dans Alien, c'est Marthe Villalonga, quoi. Et dans le 3, elle se fight contre elle-même, fondamentalement. Il y a tout un truc sur la maternité, tout un truc sur le féminisme qui est fondamental. Évidemment que c'est pas quelque chose qu'il faut aller traiter forcément dans Prométhéeus, mais c'est tout le problème de Prométhéeus, et c'est...
je pense probablement tout le problème de Alien Covenant, c'est au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on raconte ? Ces films-là étaient complètement marqués par
ça. Ces films-là allaient t'amener à cette thématique.
Exactement.
D'un point au niveau sensoriel et comment dire instinctif, on te mettait pas ça dans la gueule.
Oui,
là, on parle d'un film qui débute.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu passes sur autre chose, change de thématique, pose-toi des questions, ne prends pas des gimmicks.
Alien Covenant débute par une scène de dialogue qui te pose les enjeux entre guillemets, multiples guillemets, métaphysiques. Ouais. Donc on en parle entre personnages, basiquement dans un décor blanc. Hein, on est à la limite du champ contre champ. Donc voilà de quoi le film il va parler. Et ensuite, donc, c'est du slasher pendant une heure et demie, avec éventuellement le souvenir qu'on t'a... Mais en réalité, ça parle de ça. Et on le voit dans tous ces critiques qui n'osent pas défoncer le film. Parce qu'a priori, ça serait du Ridley Scott, ça serait du intelligent, etc. Mmh. Donc, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui déconne. Ils sont quand même tapés un bon gros slasher des familles, mais ça ne sort pas. Ils n'arrivent pas à crever cet abcès.
Et d'ailleurs, la seule figure féminine et maternelle qui reste, c'est l'ordinateur de bord, en fait. C'est réduit
Mazur, à ça. Oui.
Donc, effectivement, toute cette thématique a été évacuée. Quoi.
Non, mais moi, ça ne me gêne pas qu'elle soit évacuée. Tu comprends l'essence d'une saga, et si tu dois faire autre chose, tu pars sur une thématique qui ou crée des correspondances ou est neuve. Tu n'essayes pas juste d'en ressortir des éléments narratifs ou scénaristiques ou visuels à la con.
Bon.
Ça va, Thomas ?
Ça va, ça va. Vous avez déjà largement commencé à parler de la saga Alien. On avait dit qu'on ferait dans une deuxième partie, mais vous êtes complètement indisciplinés. On va quand même essayer. Ouais, je sais bien que vous en faites. Justement, parlons-en. Covenant, on peut dire que Covenant est derrière nous. Ok, c'est bon. On a crevé l'abcès.
C'est oublié.
Mais Rafik, je vais avoir besoin quand même de ta mémoire et de tes souvenirs, parce que tu le disais toi-même, tu es assez vieux ici autour de cette table pour avoir vécu la sortie d'Alien. Justement, commençons par toi sur l'impact culturel, on va dire, un petit peu de cette saga.
Donc, écoute, dans les souvenirs fragmentaires d'enfance que j'ai, il y a deux choses en fait. Il y a cette affiche qui ne ressemblait à rien du tout de ce qui existait à l'époque, qui était très étrange. Il y avait presque un grain vidéo dessus, avec cet œuf au-dessus d'une espèce d'un truc quadrillé. Donc pour des gamins, il y a quelque chose évidemment de symbolique assez fort, mais tu ne sais pas encore ce que c'est que le symbolisme. Et surtout, quand tu posais la question, l'adulte ne te répondait pas. Il faisait des grands yeux. Genre. Et tu sentais que c'était il y a quelque chose d'énormément de sulfureux en fait dans ce film qui est peut-être ce qui a, moi j'ai pas vu cette époque mais c'était peut-être le cas à l'époque de la sortie de l'Exorciste quoi mais je crois que c'est un film qui a eu le même impact de terreur sourde profonde qui est un truc qui vient d'en dessous. Il y a une chose que j'ai toujours regretté, c'est que ça soit toujours pas rentré dans la tête des Français de comprendre d'où vient le film Alien. Alors c'est pas pour être cocardier, mais je pense que c'est important de le rappeler. Le premier Alien, c'est quasiment un film français. En fait, il est né de l'écroulement du projet de Jodorowsky Dune. Puisque Jodorowsky donc avait engagé Dan O'Bannon pour s'occuper des effets spéciaux du film. Et Dan O'Bannon, lui, à l'époque, avait bossé avec John Carpenter sur Dark Star et il avait été frustré d'un truc. En fait, il avait imaginé cette histoire avec cette espèce d'alien en forme de ballon de plage qui défonçait les cosmonautes dans leur vaisseau. Il pensait que c'était un super truc et ça faisait rire personne. Et donc, il s'était dit, si ça les fait pas rire, il faudra que je leur recase pour leur faire peur. Et puis, il a laissé cette idée de côté. Et quand le projet de Dune s'est écroulé, Dan O'Bannon était en France, il a fait une dépression nerveuse, parce que c'était vraiment un projet auquel il croyait énormément, et il a été interné en France. Comment ?
Interné ?
Oui, interné. Il est tombé très très bas. Ouais, il s'était vraiment investi sur ce projet-là, c'était un projet de malade, Dune. Hein, pour un mec à cette époque-là, versé dans la SF, c'était le projet quasiment d'une vie. Quoi. Et donc il a été interné en sortant de là. Il a été hébergé à la fois chez Jodorowsky et Moebius. Et à cette époque-là, évidemment, eux, ils étaient sur les humanoïdes associés. Et donc, il passait sa journée au milieu de tous ces créateurs de SF. Et c'est là où il s'est mis à bosser comme un taré sur des tas de pitch, de scripts, de traitements dans tous les sens. Et cette idée de cet équipage... comment dire, dans un voyage presque quotidien, de gens qui s'emmerdent dans l'espace, etc. Tout ça, ça lui est venu, en fait... De l'ambiance dans laquelle il baignait, des humanoïdes associés. Et quand le projet a fini entre les mains de Ridley Scott... Donc
parce qu'il devait réaliser Dan O'Bannon,
il
faut le rappeler.
Voilà, on va faire vite, parce que ça a été un certain développement, un long développement. Pour l'anecdote, donc, quand il est sorti de l'asile. Il a écrit donc le Alien, il a écrit le premier pitch de Total Recall, je crois, et celui de Minority Report. Donc en gros, il a un peu fait sa carrière en une semaine d'hospitalisation.
Les deux derniers étant des adaptations de Philippe K. Dick.
Oui, tout à fait, ouais. mais bien écrit,
ça c'est sûr.
Et donc voilà, plus tard, quand le projet est arrivé entre les mains de Ridley Scott, en fait, Ridley Scott venait en France à la rencontre d'O'Bannon, et c'est Jean-Pierre Dionnet, je crois, qui a fait visite. Non, c'est pas Dionnet, c'est Druyer qui a emmené Ridley Scott à une expo de Giger, en lui disant, tiens, si tu cherches quelqu'un pour ton truc,
pour ton film, devrais,
voilà, la Giger qui avait déjà été approché par Jodorowsky
pour Dune,
qui avait fait des croquis, dont certains croquis qu'on retrouve dans la planète alien, quoi. Ça devait être la planète des Harkonnen, en fait, oui. La planète alien. Voilà, j'ai raconté un petit peu dans le désordre, j'ai l'impression, mais enfin, c'est important, je pense, de resituer le film. Voilà. Et ça lui a donné une identité très très particulière, et justement ce grain un peu européen, on va dire, un peu un télo qui a été plaqué sur un film, comme le dit très justement Julien, qui était au départ un pitch de série B, quoi, qui a été transformé en quasiment en classique. J'ai pas le souvenir d'un film à l'époque qui aurait été regardé avec condescendance, par exemple, par la critique, évidemment, elle n'aimait pas parce que c'était violent, parce que c'était de l'horreur, mais il n'y avait pas la condescendance qui habituellement accompagne ces films-là.
Mais ça restait Julien. Quand même un projet de série B. Et je pense que Dan O'Bannon, y compris dans ce qu'il a fait, dans les réalisations qu'il a fait derrière, je pense que c'est un mec qui était attaché à ça.
Oui.
Et d'ailleurs, lui, il a commandé, quand il a commencé à travailler en tant que réalisateur sur le film, il a commandé des premiers designs, etc. Et quand tu les vois, c'est très très loin de ce que le film allait devenir. Et je pense que c'est ça aussi qui est fascinant chez Alien, c'est que ça fait partie quand même, je trouve, des rares exemples, enfin, je trouve personnellement, c'est que même si c'est larvé dans le scénario, c'est un vrai film de designer. C'est-à-dire que le sens... toute la portée en fait du film vient en très grande partie de son design en fait, et cette idée notamment de confronter cet univers très cartésien, très carré, designé notamment par des gens comme Ron Cobb, à une créature qui est tout l'opposé de ça, la créature gigantesque. Je pense qu'il y a un choc des mondes qui crée énormément de sens et qui était je pense quasiment sans précédent. Moi, j'adore Planète Interdite, mais Planète Interdite ne réussit jamais à créer ce choc esthétique-là. Et Alien crée un choc à partir du moment où le Nostromo se pose sur la planète. Il y a un choc plastique là qui, tout à coup, te renvoie à des choses extrêmement profondes. Et ça, je trouve ça totalement fascinant.
Qui vont jusqu'au bout, et dont on ne saura jamais vraiment à quel point elles étaient conscientisées par ces créateurs, parce que la logique psychanalytique du film, elle est quand même... par moments délirante. Enfin, on parlait de l'ordinateur qui s'appelle maman, oui. Voilà, de toutes ces scènes d'accouchement, de mise au monde, du viol de Ripley par l'androïde. Enfin, moi, je me souviens, adolescent, quand j'ai enfin pu voir le film, c'était assez tard, le passage où il prend ce journal, qu'il le roule en forme de godemiché pour le lui mettre dans la bouche, comme si ça marquait son impuissance, et que là arrive quelqu'un qui le décapite, et là, ça gicle du blanc dans tous les coins de la pièce. J'étais suffisamment grand pour me dire, j'ai comme l'impression que ça symbolise des trucs, tout ça.
Mais c'était chez Scott, de toute façon. Enfin, tu le retrouves un peu dans Blade Runner, tu le retrouves à fond dans Legend, hein, toute cette imagerie.
Dans
cette
Legend, elle est même à la limite trop appuyée par rapport au conte de fées. Mais là, sur Alien, c'est tellement cohérent et ça arrive tellement au bon moment qu'en fait, tu ne peux que ressentir la chose. Tu la réfléchis même pas.
C'est aussi un truc dans Alien. En fait, il faut déjà préciser que ça a été un très gros succès quand c'est sorti.
Ouais,
je crois à l'époque 60 millions de dollars de recettes aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis. Donc c'est assez énorme. Et ça fonctionne tellement bien dans Alien, et on était dans tellement une autre époque en fait, que ça n'a pas fait des petits, en tout cas esthétiquement parlant. En fait, c'est-à-dire que la trame, a été reprise, mais un nombre incalculable de fois.
Roger Cormade en premier lieu, voilà, c'était un séminoïde, non, je ne sais plus c'était lequel, La Galaxie de la Terreur,
voilà. Sur lesquels on bossait, je crois que c'est sur celui-là, bossait James Cameron, ça. Et le truc, c'est que ça a été tellement même, encore une fois, fort, que Giger n'a pas pu vraiment rebosser dans le cinéma, en tout cas rien d'aussi marquant depuis. Enfin,
la mutante, il y a.
Ouais, mais voilà, c'est qu'on a essayé de faire venir, il était complètement coincé dans cette logique-là. Et c'est évidemment la mutante, bon, c'est rigolo, mais c'est beaucoup moins cohérent, on est d'accord. Et surtout, il y a un truc, c'est que certes, le film a peut-être pas été forcément, encensé par la critique. Mais il y a une logique de popularité derrière, en fait, qui était telle que c'est très rapidement devenu un film intouchable. En fait.
Ça a initié le courant anglais aussi de style, hein, oui. Avec les trucs très enfumés, avec beaucoup de lumière en contre-jour, etc. Ça a initié un vrai courant plastique. Ouais. Hein.
Mais effectivement, le film est devenu un classique suffisamment rapidement et à un point tel que dès l'annonce d'une suite en chantier, les voix se sont levées. Parce qu'on a évidemment oublié que c'était une toute autre époque. Oui. D'ailleurs, une époque où le grand public trouvait scandaleux de
qu'on
faire
fasse
des suites au film.
Et en plus, le film changeait de main à l'époque.
Et qui avait tendance à se méfier des numéros à la fin des titres.
Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'anecdote de la façon dont il a pitché, dont James Cameron a pitché, Aliens à la Fox, en fait. À l'époque, il était en attente de Schwarzenegger pour tourner Terminator. Donc le film a été repoussé d'un an. Parce que je crois que Schwarzenegger était sur Conan le Destructeur ou un truc comme ça. Et en gros, James Cameron est allé voir son agent et lui a dit « J'ai besoin d'écrire. J'ai besoin de m'occuper en attendant. Donc je veux que tu me trouves des projets de scénario auxquels je pourrais me greffer. » Et son agent, dans la même semaine, lui a trouvé le boulot pour Rambo 2, qui a été écrit à ce moment-là. Et dans la version petite parenthèse, dans la version de James Cameron, il y a beaucoup parce que ça a été complètement réécrit par Stallone après, oui. Il y a beaucoup d'éléments qui se retrouvent dans Terminator 2, notamment une asile psychiatrique au début où Stallone était. Bref, voilà. Donc il y avait les obsessions de Cameron et il y a Aliens. Et Aliens, en fait, ça s'est fait très très rapidement en fait chez les exécutifs. Il s'est pointé. Il a écrit en fait le nom
sur
le tableau blanc. Il a écrit Alien. Il a rajouté le S. Donc là, les mecs ont commencé à comprendre ce qui se passait. Et là, il a barré le S de deux traits comme si c'était des dollars. Quoi. Et là, les mecs, ils lui ont filé le film tout de suite. Donc c'est une anecdote que raconte James Cameron, en fait, qui de toute évidence, avait déjà compris comment fonctionne un exécutif de studio. Et voilà, quoi. Et après, ce qui s'est passé, c'est que donc il est parti écrire son film, qui, lui-même est en premier fan évidemment du film de Ridley Scott, pour faire quelque chose de complètement différent, en fait. Mmh. Donc,
un fan qui rongeait son frein aussi, hein, parce qu'il a quand même été beaucoup nourri de la frustration de voir tous ces films se faire. Parce que quand il avait vu Star Wars, ça lui avait mis un coup de pied au cul, où il s'était dit, il faut vraiment que je m'y mette, quoi, parce que c'est ça que je veux faire, et qui a été suivi par Alien. Qui deux films qui ont été lancés par le même producteur de la Fox, hein, il faut quand même le rappeler, qui à cette époque-là d'ailleurs avait été dégagé du studio. Son nom m'échappe et j'ai
Alan Ladd,
Junior.
Merci.
Voilà, merci Julien. Il s'est nourri de ça parce que comme lui justement, il était sur les productions Corman à l'époque à faire du simili Alien, etc.
Le truc, c'est que voilà, donc là, on parle quand même d'un film qui est complètement différent, qui reprend effectivement le personnage principal de Ripley, qui a survécu à la fin du premier. Hein, spoiler alerte.
Voilà. Mais si je peux juste donner un truc, je pense aussi très intéressant par rapport au personnage de Ripley, par rapport à ce qu'elle traverse dans le premier film, elle se révèle être le personnage principal. C'est-à-dire que quand tu découvres le premier Alien, tu sais pas qui. Oui. Sigourney Weaver, c'est pas une star, quoi. Ouais, donc par réflexe, c'est Tom Skerritt qui était le porte-parole, en fait. Ouais. Tu penses que c'est lui le héros, du coup sa mort en est d'autant plus traumatisante. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu revois le film, tu t'apercevras que tous les comédiens jouent de façon très sexuée, comme si le fait qu'ils soient sexués menait à leur mort. Il y a Véronica Cartwright qui passe son temps à hurler, qui est très entre guillemets féminine dans ses réactions. Tom Skerritt qui est vraiment le bon macho viril de base. Coteau qui se reçoit une espèce de jacque faciale sur la gueule avant sa mort et dont on ne sait pas trop quel rapport il entretient avec son collègue Arlene Stanton, dont on peut imaginer qu'ils sont un petit peu pédés tous les deux tranquillement dans un coin.
D'ailleurs, il fait une référence directe à ça dans Covenant, puisqu'il y a carrément. Il y a carrément deux personnages similaires qui sont pour le coup homosexuels.
Et du coup, Ripley, c'est la seule qui n'est pratiquement pas de vraie identité sexuelle en fait dans le film. Et c'est ça qui rend aussi sa confrontation avec la créature qui, elle, n'est que ça, c'est que du cul sur pattes, aussi intéressante. Et quand Cameron récupère ce personnage, le fait qu'il dévie vers la mythologie, en l'occurrence la mythologie antique grecque, je le trouve très intéressant. C'est comme si Ripley avait déjà montré qu'elle était surhumaine en fait dans le premier.
Il y a une il y a aussi une construction dans le Aliens crée une véritable mythologie qui n'était pas forcément là dans le premier en fait. C'est-à-dire que tout ce qui va être utilisé, employé dans Alien 3, Alien 4, tous les trucs qui sont sortis, les jeux vidéo, les BD, tout ça, etc., etc., c'est dans Aliens à proprement parler. Il y a le choc esthétique qui était le premier. Et il y a cette notion de dire bah voilà, cette fois en fait on pousse les potards à fond. Il en fait une mère de famille dans la version longue. On comprend que c'est parce qu'elle a perdu sa fille dans l'intervalle, puisqu'il y a 70 ans qui séparent les deux premiers. Elle était en cryo, elle était cryogénisée, enfin non, en cryostasis, je sais plus comment on dit. Voilà.
En état de stase. En état de
sommeil, ouais. Oui, Sigourney Weaver, on avait beaucoup voulu à Cameron d'ailleurs de qu'il ait coupé ses scènes, parce qu'en fait, le film durait plus de 2h30, je crois, dans le montage.
Ce montage-là, c'est 2h30. Ouais.
On ne pouvait pas le sortir comme ça. À l'époque, on ne faisait pas de ce genre de durée.
Non, c'est donc, il avait réduit comme un maximum,
je crois, c'était à combien 2h15, c'est ça le...
2h, ouais, c'est 2h15. Ouais.
Donc, il avait effectivement zappé toute l'intrigue maternante de Ripley.
Des origines.
Or, Sigourney Weaver avait basé un peu tout son jeu là-dessus, donc elle était assez furax.
C'était fondamental aussi au niveau de la signification du récit. C'était quand même, c'est une mère contre une mère, mais oui, deux mères ont, donc c'était fondamental. Quoi.
Et il y a aussi le fait que les aliens en fait soient en gros très intéressants les Wallen-Yutani en fait, c'est pareil, c'est dans Aliens en fait, c'est que ça revient quoi.
Tu l'avais un petit peu dans le premier quand même.
C'est beaucoup plus exploité. C'est carrément la raison d'aller les chercher en fait. Donc voilà. Et puis il y a, moi je trouve ce formidable film d'action au milieu quoi. Oui. Cette allégorie du Vietnam dans l'espace fait par un Canadien, parce qu'il faut vraiment rappeler que James Cameron est Canadien, il n'est pas américain. Quoi.
Pacifiste fasciné par les armes.
Voilà, et voilà, donc t'as pour moi un film qui en plus, alors, il y a plein de petits éléments comme ça où tu vois le génie de James Cameron à proprement parler. Quoi. Il invente des armes que certains armuriers lui ont dit, mais tu devrais breveter ça, et lui il disait, je m'en branle, ça sert à rien. Par exemple, dans Aliens, il y a ce fusil en fait où il a mis une caméra dessus.
Ah oui.
Et en fait c'est un truc qui n'existait pas, et les armuriers ont dit mais c'est génial, il faut que tu fasses breveter ça, on va fabriquer, on va se faire du pognon. Ils disaient non, je m'en branle.
Puis les espèces de bras steadicam qu'ils ont pour porter leur gun aussi, ouais. On fait école.
Et il faut préciser un truc en fait, c'est que bon, le film pour moi il ressort comme une évidence en fait, et il s'inscrit totalement dans le cinéma de James Cameron, dans la continuité de Terminator.
Ce qui n'était vraiment pas gagné, hein, parce qu'encore une fois, à la veille de sa sortie, c'était voilà, quoi, la sortie du film, le film a été un carton, hein, il gagne ça. Clairement, ce qu'il avait annoncé au producteur exécutif, c'est totalement produit, surtout aux États-Unis, quoi. Vraiment, là, voilà, pour le coup, ça a été le. Voilà.
Puis mais ils avaient une tagline qui était géniale. Ouais, quand tu vois,
This time it's war.
Quoi, ouais. Tu vois, cette fois, c'est la guerre. Quoi.
Mais il y en a qui ne lui pardonnaient pas d'avoir à ce point trahi l'esprit du premier film.
Mais tu ne crois pas si bien dire, c'est carrément son équipe sur le plateau, en fait, qui lui en a carrément voulu. C'était parce que ça a été tourné en Angleterre, donc il n'y avait que des fans du film de Ridley Scott, parce que c'est là, en fait, effectivement, où le film, dans l'intervalle entre les 7 ans, en fait, qui séparent les deux films, est devenu un vrai classique. Donc déjà, les gens ne comprenaient pas qu'on fasse une espèce de simili Rambo. Pour eux, c'était le mec. Terminator n'était pas encore sorti à l'époque où il a commencé à tourner. Donc en Angleterre, les gens ne l'avaient pas vu. Enfin, donc personne ne savait quel était le réel talent à proprement parler de James Cameron. C'était le mec qui avait fait Piranha 2, s'il l'avait vu, ou écrit Rambo 2. Et le deuxième truc, c'est que c'est un film qui a été fait, contrairement à ce qu'on dit maintenant, contrairement à ce que fait James Cameron maintenant, qui a budget illimité, etc., etc. C'est un film qui a été fait sur un budget très très serré pour ce qu'il y a à l'écran. En fait, c'est un film qui a coûté
très rapidement. 15, voilà. C'est ça le pire.
C'est un film qui a coûté 15 millions.
Qui, du coup, ne faisait pas peur parce qu'à l'époque, Universal était rassuré parce qu'effectivement, le budget d'Alien, c'était pas.
Fox,
non, je parle d'Universal, la concurrente de Fox, parce qu'ils avaient donc Aliens qui était en concurrence avec leur gros film de l'année qui lui coûtait 30 millions de dollars, qui était Howard the Duck.
J'étais sûr. Voilà. Et donc, j'étais sûr.
Tous les chemins mènent à Howard the Duck.
Et ils étaient d'autant plus rassurés qu'effectivement, la Fox n'avait déboursé que 15 petits millions pour
l'histoire
Aliens.
L'histoire leur a donné raison, voilà. Encore une fois.
Et c'est pareil, il y a des éléments en fait, très spécifiques qui sont très représentatifs d'Aliens. Par exemple, la musique de James Horner, c'est pareil, ça tient presque du petit miracle parce qu'en gros, c'est Cameron et Horner qui se sont foutus sur la gueule en fait, à l'époque sur les trois dernières semaines.
La musique a été écrite en catastrophe.
En trois semaines.
Parce que c'est une reprise d'un score qu'il avait fait pour Humanoids from the Deep pour Roger Corman. En fait, bon, ça c'est à part, mais Horner a réutilisé des tas de choses qu'il avait fait pour Corman parce qu'il considérait que c'était un peu du gâchis. C'était un peu donner de la confiture au cochon. Et il a bien fait parce que sur Aliens,
ça a bien fait. Puis ça doit être le morceau final de Aliens. Ça a dû être le plus utilisé dans les bandes annonces des dix années suivantes. Ouais. C'était hallucinant.
Le morceau Countdown a été utilisé pratiquement toutes les années 90.
Et je rebondis là-dessus juste par rapport à ce que disait Steph. Et c'est vrai qu'il faut quand même insister là-dessus, au-delà de la thématique, au-delà de toutes les anecdotes. C'est quand même un film qui a posé des standards en termes de mise en scène de l'action, de rythmique de l'action, de scénographie de l'action, qui sont encore aujourd'hui, pour moi, sur certaines scènes, inégalées. Les types, ils essayent de faire la même chose, ils n'y arrivent pas. Il n'y a que McTiernan, quelques années après, qui a révélé au monde qu'il avait sa signature à lui. Mais depuis Aliens, on n'a jamais presque fait aussi bien en termes d'action.
C'était le premier film, à ma connaissance, le premier gros film de studio en Dolby SR. Donc l'utilisation des infrabasses était tout à fait nouvelle. Ça a l'air de rien encore aujourd'hui, parce qu'on est habitué à ça, mais... Oui. L'ouverture du film avec cette espèce de rayon qui traverse la pièce, donc déjà c'était impressionnant. Et la porte aussi, la grosse porte métallique qui tombe avec un bon thum comme ça. T'avais jamais entendu ces sonorités-là, il en a beaucoup joué.
C'est un film dont l'influence est radiée en plus partout. C'est-à-dire que même quand on aime la japanimation et le cinéma japonais en général, ils ne se sont toujours pas remis, je pense, d'Aliens. C'est un film qui a eu un impact là-bas énorme et sur tous les mondes.
Voilà, le premier vrai combat de mecha qu'on ait pu voir dans un film américain.
Et le jeu vidéo. Clairement, le jeu vidéo, c'est énormément inspiré d'Aliens.
Le jeu vidéo, c'est inspiré d'Aliens. Je pense que Cameron a toujours eu un regard là-dessus. Il faut mesurer juste un petit truc quand même. Le fait de mecha, on n'avait juste jamais vu. C'est quelque chose qui est fondateur du jeu vidéo, comme d'ailleurs après Avatar ce sera beaucoup inspiré des Final Fantasy et des films japonais en termes d'imagerie. Mais ce truc-là, il est fondamental. C'est comme si le mec t'avait dit, d'un coup, je prends du Bruce Lee, mais je fous avec un alien et une meuf dans un exosquelette. On n'avait jamais vu un truc pareil, quoi.
Chose qu'il a lu.
Oui, mais c'était un truc de malade.
Ou que certains Happy Few avaient vu dans ses courts-métrages, puisqu'il avait déjà tenté le truc dans les courts-métrages. Mais et puis aussi, l'arrivée peut-être explicite, pour moi en tout cas, d'une vraie structure mythologique dans ce type de cinéma-là, c'est-à-dire de gros budgets avec des sujets de série B, puisque donc vraiment le parcours de Ripley, c'est la descente aux enfers d'Eurydice. Enfin, je veux dire, elle descend chercher la vie au fin fond de la Terre pour la ramener. Ce que Neil Marshall va refaire à sa façon avec The Descent. Mais c'est vraiment... on a peu de films, même comment dire, des films intéressants comme La planète des vampires de Bava dans les années 60 et tout, qui essayaient un petit peu de s'approcher de ces thématiques mythologiques, ne le faisaient pas avec une telle évidence que ce qu'Alien nous propose.
Je voudrais qu'on entende un peu la voix de la discorde autour de cette table, qui est celle de David Honora, qui se cache depuis tout à l'heure sous la table.
Non, pas de discorde, parce qu'en plus, moi, le fait que je reste un peu en retrait de cette saga, c'est vraiment des raisons purement personnel et en fait lié à l'esthétique du film dont on a parlé. En fait, moi, tout simplement, c'est bizarre à dire, je l'ai déjà dit dans nos ciné sous les cris de honte et de haine. Je ne vois pas le film. En fait, pour moi, le Alien a un traitement de l'image qui est trop sombre, qui fait que je ne vois pas
c'est un problème ophtalmologique.
Non, mais c'est vrai en plus. Et du coup, Et du coup, ça
faut pas mettre des lunettes de soleil quand on regarde des films, tu sais. On te l'a déjà dit.
Ça a lancé tout un courant esthétique.
Mais tu l'as revu avec le Blu-ray ?
Et j'ai revu. Non, j'ai pas revu.
La bouche pleine de raisons.
Je peux comprendre en fait sa problématique parce que c'est un film qui a été très très mal diffusé en France.
Et j'ai jamais vu au cinéma.
En VHS, en DVD. jusqu'à ce que Cameron en fait reprenne complètement le négatif et qu'il refasse le remastering quoi, qui date de 2010 là pour la sortie en Blu-ray, et c'est incroyable.
Mais en fait, typiquement, enfin, pour moi c'est un film que j'ai uniquement vu à la télé, et en plus les premières fois dans ses diffusions télé.
Oui, donc quand tu dis que tu l'as pas vu, tu l'as pas vu.
Non, mais c'est vrai. Et qui est un film qui, par son choix esthétique, est purement un film, je pense, à voir en salle, parce que justement pour des questions de contraste et de composition des plans, toute la séquence de fin du premier Alien notamment repose sur un jeu de clair-obscur qui me paraît hyper audacieux quoi, et qui moi me laisse un peu sur le carreau dans les conditions dans lesquelles j'ai vu.
C'est d'une violence visuelle la fin d'ailleurs du premier Alien.
C'est vrai, et en même temps, enfin, je trouvais ça très intéressant de vous entendre parler justement sur les conditions de production des différents films. On peut même aller enchaîner sur le troisième et sur ce que ça a été pour Fincher.
Là, c'était carrément cataclysmique.
C'est quand même assez intéressant, justement, après tout ce qu'on a dit sur ce que fait Ridley Scott depuis qu'il a repris la saga, de voir que les deux premiers et les trois premiers films, en tout cas, ont été réalisés dans des conditions de fort conflit entre le réalisateur et le studio, et qui, en fait, sont aussi des films qui ont révélé des cinéastes.
Et là-dessus, il faut rendre un peu hommage à David Giller et Walter Hill, qui ont quand même assuré à ce que des voix particulières se fassent entendre. Et puis, il y avait cette idée que chaque film allait porter l'empreinte de celui qui le réalise, qui est à peu près en contradiction totale avec ce qu'on vit ces dernières années.
C'est des chestbusters, chaque film, c'est des naissances dans la douleur qui tuent le précédent. Et d'ailleurs, en général, Ridley Scott, il déteste Alien. James Cameron n'aime pas du tout Alien 3. Il s'est même foutu sur la gueule avec David Fincher au sujet du sort qu'il réserve à Newt sur Alien 3. Et à chaque fois, c'est aussi des mecs qui doivent faire leurs preuves face à l'industrie, en fait, pas simplement face au studio. Cameron, c'était pas du tout acquis. Ridley Scott, c'était pas acquis non plus. Et Art Fincher, c'était encore pire.
Cameron, c'est pas tant avec le studio, en fait, qui s'est foutu sur la gueule. C'est vraiment avec son équipe, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ils étaient tellement serrés, c'était tellement difficile à faire. Ils ont tourné en hiver en Angleterre. C'était Galen Hurd qui était la femme de Cameron à l'époque, qui était la productrice. Et en fait, en gros, pour montrer l'exemple, alors ça peut paraître un peu bateau, mais en fait, pour montrer l'exemple, elle venait en bagnole. Elle n'avait pas du tout de chauffeur, comme c'est le cas aux États-Unis ou sur les productions américaines. On t'envoie un chauffeur pour venir sur le plateau. Elle venait elle-même en bagnole. Et ça, c'est un truc de power play, en fait. C'est-à-dire que aux États-Unis, chaque producteur sur un film veut avoir son chauffeur pour montrer qu'il a le pouvoir sur le film, pour voir machin, etc. En fait, ils ont fait le film vraiment, alors je suis désolé pour le terme, mais un peu comme des prolos, quoi. Vraiment, ils s'y sont vraiment allés.
Et puis, il a viré son acteur principal, enfin bref.
Alien 3. Voilà. Donc c'est un
on
film...
était arrivé à Alien 3 enfin, et on revient.
Mais c'est... du coup, c'est un film qui est complètement miraculeux. C'est un film qui a cartonné quand il est sorti en salle. Il a fait 90 millions de dollars, je crois, à l'époque, ce qui est monstrueux dans les années 80. Mm-hmm. Et là, d'un seul coup, la Fox s'est dit, mais là, il faut vraiment faire Alien 3. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de questionnement sur qu'est-ce qu'on fait. Il n'y a pas eu de questionnement sur l'idée de faire Alien 3, il y a eu un questionnement sur comment on va faire Alien 3, parce que le problème, c'est qu'en fait, on parle quand même d'un film qui a été repris par je ne sais pas combien de cinéastes. Il y a eu.
John McTiernan.
Il
était cité.
Vincent Ward, oui, c'est le plus connu,
celui qui a le plus bossé.
En fait, tu as Vincent Ward qui est un cinéaste un peu oublié.
McTiernan, c'était avant, Vincent Ward, dans mon souvenir.
En fait, McTiernan, bon, moi je crois qu'il
c'était sur Terre. En fait, ils avaient annoncé que dans le 3, ils arriveraient sur Terre. On avait entendu parler de McTiernan, et ensuite il y avait une news comme quoi non, finalement ce serait pas sur Terre, ce serait dans une prison dans l'espace. C'était comme ça que ça avait avancé. Et après il y a eu ce projet complètement dingue.
Alors Vincent Ward, c'est ça, il y a l'idée de faire une prison planète qui était déjà en fait dans le projet de Vincent Ward, sauf que c'était une prison planète entièrement en bois. Donc ce qui est un truc complètement déjà visuellement.
Et qui explorait une autre facette de la SF, comme d'ailleurs Scott l'avait fait et Cameron l'avait fait. Fascinant.
Et déjà, tu avais déjà donc, des moines en fait, qui recueillaient l'alien et qui en faisaient, pour eux, c'était un dieu en fait.
Oui. C'était voilà. Plus médiéval. Quoi,
voilà. Comment il s'appelle
Alors, juste pour info, la raison pour laquelle ils avaient aussi repéré Vincent Vincent Ward, c'est que son film Flight of the Navigator, qui n'avait pas été un énorme succès, avait beaucoup buzzé, était sorti dans pratiquement tous les pays et avait pas mal buzzé. On en entendait beaucoup parler.
Voilà, je crois qu'il a fait un film après, non, aux États-Unis, Un cœur de métis,
qui est un film complètement taré. Ouais. On va pas en parler, mais ouais. Non, mais qui vaut le coup parce que
Anne Pario, c'est ça.
Il explique bien ce qui est que Vincent Ward est. Moi, je l'ai toujours appelé comme ça. Je dis un fou qui est attaché au. Qui est trop attaché au boulet qu'il retient au sol. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mec qui est complètement taré, donc entre guillemets génial, et qui passe son temps à essayer d'éviter d'être taré et génial pour être le plus normal possible. C'est cette normalité qui le plombe, en fait. Quoi.
Et je dis pas de bêtises, c'est lui qui a réalisé ce film avec Robin Williams.
Tout à fait, au-delà de nos rêves, qui est pareil, qui est exactement typiquement ce que je viens de dire.
Mais qui a des visions de plus en plus à un sketch des inconnus, votre truc, les garçons. Je vous laisse continuer, mais.
Attends,
on peut retourner à Alien 3.
Donc l'idée d'Alien 3, c'est qu'il y avait cette chose-là, et Ripley arrivait au milieu de cette maison de fous, en fait, de tous ces moines qui voyaient en l'alien une figure
messianique.
Voilà.
Qui les bouffait quand ils allaient dans les chiottes. Ouais. Il y avait des espèces de chiottes turques en bois, non, mais c'est ça. Mmh. Et les curés se faisaient bouffer par l'alien qui sortait des chiottes. En fait.
Vincent Ward a pas mal bossé sur le film. Il a donné une
beaucoup de travail.
Voilà, ils ont gardé. Il y a beaucoup. Si on cherche un peu, si on tape sur Internet, on trouve quelques dessins.
Dans les bonus d'Alien 3.
Ah oui,
c'est
bonus.
C'est fascinant. Hein.
Et finalement, en fait, le film a été donné à Reni Harlin. Qui a quand même aussi bossé dessus pendant quelques temps, quelques temps avant de partir faire Die Hard 2. Donc c'était à peu près à cette époque-là. Et finalement, je crois que c'est Fincher qui a récupéré. Ridley Scott avait été aussi appelé pour faire le troisième, parce que l'idée c'était de revenir un peu aux sources. Et en gros, Ridley Scott a fait non, ça m'intéresse pas. Je
réserve pour Prométhée.
Il faut savoir que
je me réserve pour 1492.
Mais parce qu'il faut quand même se souvenir que le Cameron avait été un triomphe, mais c'était un film qui était mal aimé pendant très très longtemps. Hein. C'est maintenant
c'est critique,
un film. C'est un film qui fait l'unanimité aujourd'hui, mais pendant très longtemps. C'était considéré comme un truc de gros bourrin.
C'était Rambo 2. En fait. Oui, Alien, c'est Rambo 2. On définit vraiment cette époque. La scission entre la critique et le public, c'était vraiment les deux emblèmes. Quoi.
Donc, du coup, le truc avec Alien 3, c'est que arrive David Fincher, qui est ce petit génie du clip. Qui avait déjà fait. Alors, bon, il y avait, je crois, à l'époque, c'était quoi? Il avait fait Vogue pour Madonna.
Encore. Il avait
si,
fait
90,
Billy Idol et les Women. Il n'avait pas fait encore le Michael Jackson.
Non,
il l'a fait après. Je sais plus. Et puis, beaucoup de pubs.
On savait aussi à peu près quand on suivait. Enfin, moi, j'avais entendu dire qu'il avait bossé déjà à ILM et qu'il avait été un des plus jeunes employés d'ILM, donc la société d'effets spéciaux de George Lucas, et qu'il. Après, j'ai compris ce qu'il faisait. En fait, il shootait les matte paintings en fait là-bas.
Sur le retour du Jedi.
Ce qui demande un savoir-faire monstrueux et un sens de la photographie, une connaissance des pellicules, des lentilles, etc. Assez monstrueux. C'était étonnant de voir qu'un jeune mec comme ça avait débuté dans le métier avec un poste pareil. Quoi.
Et à l'époque, il avait 28 ans, donc sur Alien 3.
Il était très jeune.
En gros, il a. Ce qui lui a filé le job, en fait, même s'il y a eu beaucoup de problèmes après sur le plateau, c'est que en gros, il tout de go, en fait, à une réunion d'exécutifs avec Sigourney Weaver, il lui a dit moi, je vous vois comme ça, je veux que vous rasiez le crâne, et à la fin, vous crevez.
Ouais.
Et donc, t'as Sigourney Weaver qui a été complètement scotché par le pitch, quoi, voilà. Et
en guise de déjà, non, dans le fin sans Ward, non.
C'est possible, mais le truc, c'est qu'il y avait...
Sachant qu'elle avait un souci aussi avec le fait d'être typecastée Alien, en fait. Elle pensait que ça était, à tort, je pense, mais elle pensait que ça pouvait être mauvais pour sa carrière. À l'époque, elle essayait au maximum de se retrouver dans des comédies... comment ça s'appelait cette merde, Legal Eagles là,
elle a fait Working Girl.
La Working Girl, bien sûr. SOS Fantôme. Enfin, elle essayait plutôt d'aller dans une direction très éloignée du personnage de Ripley, si possible un peu plus sexuée, un peu plus séduisante, etc. Et donc, l'idée de crever, de le faire mourir, elle était clairement pas contre.
Le truc, moi, je sais pas si chez Vincent Ward, elle devait déjà mourir, mais en tout cas, le truc, c'est que, en guise de réponse, en fait. Qui signifiait en fait à sa manière, qu'elle voulait faire ce rôle-là, en fait, c'est qu'elle s'est retournée vers les producteurs de la Fox, et elle leur a dit, vous me payez combien maintenant? Et en gros, c'était une manière de dire, je suis derrière ce mec-là, et maintenant, il va falloir casquer parce que je suis effectivement la star de d'Alien. Et voilà. Et le truc, c'est que... Ah, vas-y.
Non, je voulais juste dire, Raph a parlé des deux producteurs tout à l'heure pour leur acuité, enfin leur pression sur certains des choix de réel, mais il faut aussi tirer son chapeau à Sigourney Weaver, parce que non seulement c'est son charisme et son talent, parce que pour moi, c'est une actrice monumentale, hein, Sigourney Weaver, qui ont porté la franchise, mais c'est aussi une nanette qui est restée derrière ses réalisateurs. Elle était derrière James Cameron. C'était pas évident, je pense, d'être derrière James Cameron pendant Alien 2, parce qu'y compris James Cameron et y compris David Fincher, on va probablement en reparler, étaient aussi eux-mêmes des personnalités, on va dire, fortes, qui étaient compliquées à suivre et à comprendre, hein, pour une équipe technique. Hein. Voilà.
Donc il y a, donc effectivement, il y a la volonté avec Alien 3 de faire un retour aux sources. Donc on revient à un seul Alien et non pas plusieurs Aliens.
C'est un film très sombre là encore.
Voilà, c'est une austérité. Quand tu revois le film aujourd'hui, tu vois clairement le David Fincher de l'avenir, quoi. Celui de Seven et des autres films.
Et après, de bien d'autres.
Mais, voilà. Non, mais tu vois, j'ai failli citer des trucs style Panic Room, alors je me suis retenu. Mais le réalisateur de Seven, en tout cas. Et le truc, c'est que c'est un film qui a été déjà tout de suite, très rapidement, en fait, parce qu'il y a eu déjà une pré-production qui a coûté cher, qui était déjà dans les choux, en fait, pour le réalisateur. C'est-à-dire qu'au-delà de la vision, au-delà de tout ça, le studio lui en voulait déjà, en fait, de démarrer dans les starting blocks alors qu'il était déjà en retard, en fait.
Le script n'était pas terminé.
Walter Hill et Giller, quand
on dit qu'il est en retard, c'est pas qu'il est en retard globalement, c'est qu'il y a une date butoir impossible à contourner, voilà. Avec un teaser qui avait déjà été balancé.
Tout à fait. Et surtout, c'est que on parle d'un réalisateur de 28 ans qui est extrêmement méticuleux, qui prenait son temps pour faire ses plans, qui prenait son temps pour diriger ses acteurs, qui prenait son temps, etc. Alors que fondamentalement, et ça c'est un truc qui a clairement été dit après la sortie du film, en fait, et aujourd'hui en fait c'est dans les bonus justement, c'est la Fox s'en foutait de la qualité du film complètement. C'est-à-dire que pour eux, l'idée c'était de toute façon il fallait que le film sorte à cette date-là et il fallait qu'il cartonne. Et le truc c'est que, alors évidemment à un moment donné quand tu fais un film qui est aussi déjà problématique sur le papier parce qu'effectivement il n'y a pas de charpente à proprement parler, le scénar n'est pas terminé. Que tu as des producteurs qui sont aussi des cinéastes comme Walter Hill qui d'un seul coup en fait se disent mais nous on peut récupérer le scénario.
C'est John Lando surtout qui l'a.
Oui, mais parce que c'est quand je sais plus quel est le nom du producteur, tu vas peut-être me rappeler, qui s'est barré justement, et c'est pour ça que John Lando a repris mais c'est Giller, je crois, c'est Giller justement qui à un moment donné a lâché l'affaire parce que le film prenait une telle tournure qu'il a fait un nervous breakdown sur le plateau et qu'il est rentré en fait, parce que encore une fois ça se tournait en Angleterre. Et alors le gros coup du sort en fait qui a bien planté David Fincher, c'est que 6-8 mois avant la sortie du film, il y a un cliché qui sort dans les tabloïds anglais d'un paparazzi en fait qui démontre que le truc qui devait rester caché du film, que Sigourney Weaver est engrossé par l'alien. Donc du coup, là c'est branle-bas de combat pour le studio parce que tout le monde est au courant, ça revient dans Variety, ça revient partout. C'était le spoiler comme sur Internet aujourd'hui, mais avant l'heure quoi. Et du coup, t'as le studio qui commence à paniquer, qui se dit mais on a plus notre fin, qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc il faut qu'on retourne la fin, donc ils ont arrêté le film. Entre temps, les cheveux de Sigourney Weaver ont repoussé, elle a refusé de se raser le crâne parce que c'était infernal quoi.
Ce qui a coûté une fortune parce qu'il fallait lui poser une prothèse en mousse de latex qui était extrêmement difficile en plus à poser parce que
Chaque nouvelle scène retournée, c'était $40,000 de plus à aligner si elle devait se raser le crâne. Donc les mecs, ils ont fait une prothèse effectivement à moitié prix, quoi.
Greg Canum,
enfin, voilà, il y a eu plein de trucs comme ça. On oublie de dire que comment il s'appelle, Giger avait été rappelé pour refaire la créature parce que la créature change un petit peu de design à chaque film. C'est un truc qu'il faut aussi préciser. Et qu'en fait, ces sketchs ont été bazardés. Je crois que c'est Gillis et...
Tom Woodruff, ouais.
Ouais, c'est ça, qui ont récupéré le design.
Mais même au niveau
des effets. Et qui interprétait d'ailleurs la créature sur
Tom
le plateau. Woodruff,
quoi. Comme d'habitude.
Voilà, et du coup, en fait, voilà, ça donne un espèce de film brinque-ballant, étrange, mais en même temps, moi, je trouve assez réussi, quoi, sur plein d'aspects.
Hein,
parce que, déjà, il a une forte personnalité. C'est un film qui a une forte personnalité. On plaisantait tout à l'heure sur la vision.
Même en termes culturels, en fait, si on peut dire que le premier était un film européen Et le second, un film américain, plus tu meurs, quoi. Enfin, c'est pas américain, c'est Meurica. Moi, enfin, je me souviens, en tout cas, la première vision du 3, avoir presque l'impression d'être devant un film russe, et notamment dès les premières séquences, avec cette espèce de flash, comment dire, stroboscopique sur la musique assez expérimentale pour l'époque d'Alien Goldenthal. Quand ils arrivent sur la planète alien, où tu as cette espèce de vent cosmique,
sur la planète prison.
Oui, la planète prison, comment dire, à l'extérieur, il y a une espèce de vent qui est fait de parasites à l'image, en fait. Enfin, il y a des effets qui étaient presque plus proches d'un Tarkovsky que d'un blockbuster hollywoodien. C'était assez déstabilisant aussi vu à l'époque.
Et c'est un film qui s'est fait massacrer aux projections test. Donc le truc, c'est que les gens comprenaient pas. Enfin, bon, après, ça dépend à qui tu vas demander, évidemment, mais en l'occurrence, les projections test se faisaient avec des kids de 17 ans qui comprenaient pas. Donc c'est
l'inverse de la réception de Covenant. De toute façon, Alien, c'est plus ça. Hein. C'est vrai qu'ils n'étaient pas appréciés en général, ces films.
C'était assez curieux d'essayer de revenir au premier, alors que du côté du public, il y avait au contraire l'attente d'une hypertrophie. Mmh. Donc, quand les gens avaient commencé à délirer sur le coup de l'arrivée sur Terre, en gros, le public de l'époque voulait déjà...
Qu'on avait dans les comics.
Voilà, hein. Il voulait déjà se taper un Independence Day, un grosso merdo. Ce qu'il attendait du troisième Alien, c'était de la bourrinade à n'en plus finir, quoi.
Non, il y a ça, et il y a le fait que, soi-disant, la scène finale, elle ressemblait trop à celle de Terminator 2, parce que c'était le tombé, que le personnage de Ripley se jette dans la lave en fusion. Et du coup, en fait, il y a parmi les reshoots, il y a des trucs qui ont été rajoutés. C'est notamment le chestbuster, justement, le moment où l'Alien se... dans la version sale, quand Ripley se jette dans le vide, se suicide en fait pour épargner à l'humanité ce qu'il attend avec l'alien. Tu voyais l'alien en fait qui sortait de son ventre juste avant qu'elle plonge dans la lave. Oui. Et ça, c'est un truc qui a été coupé dans une version longue, un peu bâtarde, qui est sortie en 2003.
2003, ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Elle a un nom un peu bizarre.
C'est parce que c'est pas vraiment un director's cut dans le sens où Fincher n'a pas.
Auctioner's cut ou je sais pas.
Non, c'était pas. Non, parce que c'est beaucoup plus lent.
Auctioner's cut ou un truc comme ça, je ne sais plus. Ouais.
Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est une version qui est plus longue. Il y a 20 minutes en plus, 30 minutes en plus, je crois. Cet élément, par exemple, le chestbuster, en fait, a été viré. Alors ça, c'était une attente, je pense, qui était aussi liée à ça fait partie de la saga, donc il faut qu'on en mette un, etc. à ce moment-là, quoi. Donc voilà, la réception du film. Le film a relativement marché par rapport à ce que c'est quand même, il faut le rappeler, mais c'était pas le succès annoncé. Mais en même temps, je pense que les mecs, ils ont essuyé les plâtres. Hein. Et le truc qui s'est passé, c'est que ça aurait dû tuer la franchise. Enfin, voilà, on aurait dû dire maintenant Ripley n'est plus là, etc. etc.
Ça
n'a pas été le cas, puisqu'en fait, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Joss Whedon qui leur a dit j'ai une idée. Merci Joss Whedon.
Non, ils sont allés le chercher, je crois.
Ils sont allés le chercher, en fait. C'est lui qui leur a proposé le clonage, en fait. Mm. Donc,
ils voulaient du popcorn, ils ont eu du popcorn au final.
Il faut savoir que Jeunet a coupé énormément dans le scénario de Whedon.
Mais à la base, c'était pas Jeunet, en fait. Alors, c'était pas Jeunet qui devait faire le film, c'était Danny Boyle qui a un peu travaillé dessus et qui finalement s'est rendu compte à l'époque qu'il n'était pas. C'était après Trainspotting. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout fait pour faire un blockbuster, en tout cas à cette époque-là. Et que du coup, il avait jeté l'éponge et effectivement, ils sont allés chercher Jeunet après
La cité des enfants perdus.
Voilà.
On va conclure quand même, parce qu'on a été très 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 long. Là. Ça fait au moins une heure qu'on parle d'Alien. Mais quand même, justement, dire quand même un petit mot d'Alien Résurrection, qui est par exemple moi le premier que j'ai vu au cinéma. Je pense que toute une génération a découvert la saga Alien avec ce film-là, les gens de mon âge notamment, parce qu'en 97.
Mais pour moi, ils faisaient déjà plus partie de la saga.
Oui, mais quand même, c'est une première itération vers autre chose. Mais quand même,
la franchise.
Mais en fait, il y a une rupture, c'est déjà. C'est plus un film qui tourne en Angleterre. C'est bête, hein, mais il y a une patine, il y a un savoir-faire dans les équipes anglaises qu'on retrouve dans les trois films. Rafik, il a tout à fait raison. Hein, le côté européen, russe et tout ça, c'est indéniable. Mais il n'empêche qu'il y a une lumière, pas pareil, par exemple, en Angleterre.
L'absence de lumière, dirait David Nora.
Mais ça manque, en fait, déjà dans Alien. Et puis, ce n'est pas un film qui s'est fait dans la douleur aussi. C'est un film qui a été très compliqué. Ça a été hyper compliqué pour Jeunet de tourner Alien Resurrection. Et on ne peut pas lui enlever ça. Et
faut dire qu'il ne parlait pas anglais, déjà.
Taper dessus par les ricains, faut voir comme et tout. Il a fallu qu'il monte pas de blanche, mais c'est pas un film qui s'est fait dans la douleur. Et je pense que, quelque part, la valeur aussi de ces trois films-là, de Aliens et Alien 3, c'est ça aussi. C'est
des accouchements douloureux.
Ça se sent. Et le film en bénéficie de ça. C'est malheureux à dire, mais des fois, il faut qu'un film se fasse dans la douleur.
C'est vrai.
Dans le conflit.
Il y a quand même aussi, malgré tous les problèmes qu'a pu connaître Alien 3, tu as quand même une faiblesse du scénar, pour moi, de Résurrection, qui est la cause première. Parce que je veux dire, Jeunet, on peut lui jeter la pierre sur plein de trucs.
Bah, mais malgré son principal problème, c'est qu'il n'en avait rien à foutre des aliens.
D'accord, peut-être. À côté de ça, c'était un mec qui avait la possibilité de faire quelque chose. Je veux dire, il reste dans le film, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il reste des beaux plans, il reste certaines belles choses. C'est essentiellement narrativement que pour moi, ça, c'était tout d'un coup l'aveu que clairement, les gens qui allaient faire des aliens à partir de maintenant n'avaient rien compris à ce qu'étaient les aliens en termes thématiques avant. Ça, pour moi,
c'est rentré dans le système du studio, en
voilà,
fait.
C'est surtout ça.
Ouais, et puis il y a des scènes un peu bizarres. Là. Ce moment où elle fait du basket. Ouais. Ces espèces de
jette le ballon dans la
tête. Il y a d'autres moments un peu bizarres. Il y a
une ou deux séquences qui, effectivement, à l'époque, pouvaient surprendre par leur. Peut-être pas le côté un peu gore ou violent, la découverte des clones ratés, ça c'était quand même une séquence qui fonctionnait, et le sadisme entretenu vis-à-vis des aliens aussi, qui était pas mal.
C'est pour ça que je jette pas tout dedans, mais le scénario.
La façon dont Tokonji filmait les aliens aussi, c'est on y va pour voir les aliens aussi, voir les aliens. C'était chouette, ça.
Une scène sous-marine assez
dégueulasse. C'était aussi les débuts
d'adduction
de l'image de synthèse.
Les effets numériques là.
Ouais. Ouais, ils étaient contraints de bosser avec une boîte.
Mais c'est un film étonnant parce qu'en fait c'est un film qui, moi je me rappelle que j'avais trouvé ça correct la première fois que je l'ai vu. Puis en fait quand j'ai revu le film je me suis dit mais c'est pas possible en fait ça tient pas du tout debout.
Puis il y a le final hein, d'un point de vue mythologique aussi. Enfin c'est quand même l'arrivée du grand albinos
il a raison sur ce côté. Enfin là on les regarde en détail mais première fois que tu vois le film, tu t'en prends plein la gueule. C'était devenu un blockbuster. C'est ce qu'on dit aujourd'hui quoi.
La sortie américaine il y avait un micro-trottoir donc d'adolescents qui sortaient de la salle et ils étaient tous unanimes. Ils disaient, c'est pas le meilleur Alien, mais au moins, c'est pas Alien 3.
Mais là, c'est pareil, c'est encore un film qui a, je pense, quelque part, saboté la franchise, parce que je pense que Fox s'est dit, bon, bah, on peut
faire ça sert pas,
ouais, en fait.
C'est rentré dans le système.
En gros, il y avait pendant longtemps, il y a eu des développements sur AVP, Alien versus Predator, bon, qui ont donné les films qu'on connaît, avec le Paul Anderson et puis le film des deux frangins.
Strauss.
Qui est une catastrophe atomique, quoi, mais à faire passer le premier AVP pour un classique, quoi. Et non, mais le 2, c'est carrément hallucinant, quoi. Et puis donc il y a effectivement la récupération par Ridley Scott dont on a parlé. Et ce qui est malheureux, en fait, c'est que donc t'as cette espèce de parce que j'aimerais quand même dire un petit mot là-dessus, c'est que je pense que, enfin, il y a Neil Blomkamp qui avait plus ou moins annoncé il y a 2 ans qu'il voulait essayer de faire une espèce de Alien 2.5 en fait, qui était une suite.
Qui serait toujours dans les tuyaux. Ou
alors non justement
fini. Ridley l'a tué.
C'est triste.
Voilà, c'est ça. En fait, le truc qui s'est passé, c'est que Ridley Scott a décidé de reprendre donc du coup la franchise à son nom, de s'associer définitivement dessus et donc de donner une direction. Il y aura probablement un troisième. Prometheus, hein,
on va dire comme faire ça. 3 ou 4, je crois.
Voilà, il faut qu'il se dépêche parce qu'il a quand même 80 ans. Hein.
Mais il ne peut pas mourir, c'est Dieu.
Ah non, il ne peut pas mourir.
Non, mais c'est drôle parce qu'on dit toujours putain, George Miller, 70 ans, Mad Max 4, tu vois, là, putain, Ridley Scott, 80 ans.
Ça commence à se voir.
Alien Covenant. Tu vois. Et le truc, c'est que du coup, voilà, c'est cet éventuel. Alors, je sais que ça aurait pu être un film doudou, on va dire, le Alien de Blomkamp, mais ça reste pour moi un cinéaste qui a une patine propre à lui. On peut reprocher pas mal de choses à son écriture, à ce genre de choses, etc.
Mais voilà, c'est un vrai amateur de SF, c'est super important.
Et qui, à mon avis, n'aurait pas fait une bête suite d'Aliens, en fait, justement. Donc, c'est un peu dommage que ça soit.
Dans la logique de l'origine.
Voilà. De la même manière que Alien Covenant est une bête préquelle de Alien, tu vois, qui a été refaite 1 million de fois, en fait, avant. Quoi.
Et la boucle est bouclée. Je rappelle qu'Alien Covenant, magnifique, Stéphane, c'était pas fait exprès du tout. Je rappelle qu'Alien Covenant donc, est au cinéma en ce moment, que si vous voulez vous faire votre propre avis, le mieux, c'est encore d'y aller ou de re-regarder les trois premiers Aliens, c'est aussi très bien.
D'aller redécouvrir Mutants aquatiques en liberté, Léviathan et tous ces films de
monstres
bien meilleurs qu'Alien Covenant.
Tous les Bruno Mattei aussi qui reprennent carrément le nom, Alien.
Voilà, tout
Alien
ça.
Alien 3 italien.
Vous pouvez faire tout ça. On avait dit qu'on faisait pas de reco à la fin de cette émission parce qu'elle était trop longue, mais vous l'avez fait quand même. Notre temps est écoulé. Merci à tous les cinq. Merci à Clément, à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions qui ne font pas toute une heure. Le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous nous écoutez grâce à iTunes, faites-nous plaisir à peu de frais en laissant un commentaire et surtout en nous donnant tout un tas d'étoiles. Ça n'a l'air de rien, mais ça nous aide. Un grand merci d'avance et on vous dit à très vite.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.